J'ai une bonne question pour vous. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on sait qu'une personne est en colère contre nous? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui vient du cœur de Dieu, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a plusieurs bonnes questions pour vous aujourd'hui. Je suis certaine que l'enseignement qui va suivre nous sera très utile dans notre vie quotidienne. Voici nos questions. Est-ce que la distinction qu'on fait entre le clergé et les laïcs est fausse? Est-ce que Dieu utilise les laïcs autant que le clergé pour accomplir son œuvre? Quelles sont les caractéristiques d'un homme de Dieu? Est-ce qu'on devrait se préoccuper de la santé spirituelle de notre Église? Est-ce que c'est normal qu'un messager de Dieu soit touché dans son cœur quand la santé spirituelle de l'Église n'est pas bonne? Avons-nous le droit de juger un frère ou une sœur dans la foi? Devrions-nous prier et jeûner pour notre Église? Un pasteur devrait-il porter le titre de révérend? Devrions-nous nous inclure quand nous confessons le péché de notre Église? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on sait qu'une personne est en colère contre nous, qu'elle ait tort ou raison? Que devons-nous faire quand nous remarquons un état malsain ou une pratique inadmissible dans notre assemblée? Demeurez avec nous, la parole de Dieu a la réponse à chacune de nos questions et on est sur le point de recevoir toutes ces réponses par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, c'est tellement bon de venir à toi, de savoir que tu nous écoutes, que tu désires nous exaucer. Notre désir, Seigneur, c'est de mieux te connaître à travers ta parole. Alors enseigne-nous, fais-nous entendre ta voix, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons complété l'étude du livre d'Esdras. Le temple et la muraille de Jérusalem furent reconstruits. Le tout se termina par un grand réveil spirituel. Un véritable réveil commence dans le cœur des croyants qui se repentent, qui abandonnent leurs péchés. Aujourd'hui, nous débutons le livre de Néhémie. Un contemporain de Esdras. Un pronom à la première personne du singulier est employé dans Néhémie, chapitre 1, verset 1. Faisons la lecture. Néhémie, chapitre 1, verset 1 et 2. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Ceci donne l'impression que Néhémie est l'auteur du livre qui porte son nom. Si Esdras était l'auteur, comme certains le pensent, alors il a copié un texte des registres de Néhémie. Ce livre, tout comme celui d'Esdras, contient des copies de lettres, de décrets, d'inscriptions dans les registres et de d'autres documents. Il semble que la même personne ait écrit les deux livres, probablement Esdras. Les livres de Esdras et de Néhémie en forment un seul dans le canon hébraïque. Néhémie était un laïc alors qu'Esdras était un sacrificateur. Le livre d'Esdras met l'accent sur la construction du temple et celui de Néhémie sur la construction des murailles de Jérusalem. Esdras traite du retour de l'exil d'un point de vue religieux et Néhémie sous l'angle politique. Esdras est un représentant honorable de la prêtrise et Néhémie est un représentant noble des entrepreneurs. Néhémie occupait une fonction importante à la cour du roi Artaxerxès, mais son cœur est avec le peuple de Dieu et la reconstruction de Jérusalem. Ce livre se caractérise par une approche personnelle. Chronologiquement, c'est le dernier des livres historiques. Nous sommes à la ligne d'arrivée en ce qui concerne l'écoulement du temps. C'est aussi loin qu'est rapportée l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Les 70 ans de captivité sont terminés, et un petit nombre de réchappés est revenu s'établir en Juda. Le retour d'Esdras se produisait environ 75 ans après celui de Zorobabel. Néhémie est revenu une quinzaine d'années après Esdras. Ces chiffres sont approximatifs, mais ils indiquent les étapes de l'histoire d'Israël après la captivité. Ceci nous permet de constater où se situent naturellement les 70 semaines de Daniel dans l'histoire d'Israël. Le compte des 70 semaines débute avec le livre de Néhémie, pas celui d'Esdras. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Le contexte des événements de Néhémie et les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Ça, c'est Daniel, chapitre 9, verset 25. Voici les dates qui semblent satisfaisantes pour le déroulement des 70 semaines de Daniel. Le décret de Cyrus, 536 avant Jésus-Christ, Esdras, chapitre 1, verset 1 à 4. Le décret d'Artaxerxès, 445 avant Jésus-Christ, 20e année de son règne. Néhémie, chapitre 2, verset 1 à 8. C'est le début des 70 semaines. Les premières 7 semaines se terminent en 397 avant Jésus-Christ avec le livre de Malachie. Les versets clés de ce livre sont les suivants. Le premier verset. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux. Néhémie chapitre 1, verset 4. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter, et je ne puis descendre. Le travail sera interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Néhémie chapitre 6, verset 3. Le peuple que Dieu s'était choisi et qu'il avait appelé devait proclamer la gloire du vrai Dieu vivant et dénoncer l'idolâtrie. Cependant, ce peuple s'est souvent adonné à l'idolâtrie. Dieu permit que son peuple aille en captivité à Babylone, chez une nation très idolâtre, afin de lui enlever la piqûre de l'idolâtrie. À son retour, le peuple rejeta l'idolâtrie. La restauration du peuple ne fut pas complète, car la nation ne fut pas libre entre le retour de la captivité et l'ère de l'Empire romain. Lorsque Jésus-Christ vint sur terre, la Judée était sous le joug de l'Empire romain. Trois hommes ont joué des rôles importants lors de la reconstruction de Jérusalem. Le prince Zorobabel était le représentant du domaine politique. Ensuite, il y eut Esdras, le sacrificateur, et finalement, Néhémie, un laïc. Le roi, le sacrificateur et le prophète n'ont pas réussi à achever les travaux de reconstruction. Donc Dieu suscita Néhémie, qui était ce que l'on désignerait aujourd'hui comme un laïc. La distinction qui se fait entre le clergé et les laïcs est malheureuse aujourd'hui. L'un a besoin de l'autre. Les deux sont nécessaires. La distinction entre le clergé et les laïcs est fausse. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes, racontait cette anecdote au sujet du début de son ministère. « Au début de mon ministère, racontait McGee, je portais un redingote, un faux col, une chemise blanche et un chapeau melon. Un jour, un de mes amis me dit que j'avais l'air d'une mule qui regardait par-dessus une clôture blanche. Un peu plus tard, je me rendis compte que je n'étais pas différent des hommes assis sur les bancs devant moi. Depuis, j'ai revêtu un habit simple comme tous en portaient à l'époque. » Le pasteur McGee racontait aussi celle-ci. « Un jour, je jouais au golf avec des amis. L'un d'eux invita un de ses amis qui était un ancien dans une église. Il semble que cet homme ignorait que je serais là. Lorsqu'il me vit, il dit « Oh oh, le docteur McGee est avec nous. Il faudra faire attention à notre langage. » Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai répliqué immédiatement. « Écoute, frère, je ne suis pas différent de toi. Si tu veux dire des jurons, fais-le. Mais rends-toi compte d'une chose, que je sois ici ou non. » Dieu t'entend. Cela ne fait aucune différence que j'entende ou non ce que tu dis. La distinction que nous faisons entre le clergé et les laïcs est fausse. Il est aussi important pour l'un que l'autre d'être en communion intime avec Dieu. Dieu suscite des laïcs pour accomplir de grandes tâches. Finalement, ce fut un laïc qui reconstruisit les murs de Jérusalem et qui termina le nettoyage et la purification du temple. Je pense qu'aujourd'hui encore, Dieu peut susciter des laïcs pour accomplir de grandes choses sur une fondation solide. L'œuvre de Dieu a besoin d'être reconstruite. À plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église, Dieu suscita des hommes qui n'avaient pas fréquenté un séminaire ou une école théologique. Nous avons besoin d'hommes comme Néhémie. Veillez, travaillez, priez, caractéristiques d'un homme de Dieu. Néhémie était un homme qui veillait et priait. De plus, il travaillait et priait. Veillez, priez, travaillez, priez sont des expressions qui décrivent Néhémie. En Perse, il avait une situation très élevée dans le gouvernement. Il était échanson du roi, c'est-à-dire celui qui lui servait à boire. Ce poste était réservé à une personne digne de confiance qui devait goûter le vin pour s'assurer qu'il n'était pas empoisonné. C'était un homme bon et honnête. Il aurait pu demeurer en Perse s'il l'avait désiré, mais s'il l'avait fait, Dieu n'aurait pas parlé de lui dans sa parole. Nous n'aurions jamais entendu parler de lui. Alors que nous ferons la connaissance de ce personnage, notez pourquoi il était si remarquable. Je vous le présente, Néhémie, un laïc loyal. Les 7 premiers chapitres du livre traitent de la reconstruction des murs. La suite du livre traite d'un réveil religieux et de réforme. Le premier chapitre contient une prière de Néhémie. Débutons notre lecture, Néhémie, chapitre 1, versets 1 et 2. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Les Juifs réchappés sont ceux qui sont retournés en Juda et à Jérusalem. Néhémie aurait pu le faire, mais pour une raison quelconque, il ne l'avait pas fait. Il s'est plutôt procuré une bonne situation. Je ne le critique pas parce que Dieu utilise de telles personnes et il a utilisé Néhémie. Néhémie, malgré l'importance de sa situation, se souciait de l'œuvre de Dieu. Il était touché par tout ce qui concernait la cause de Dieu. Un jour, alors qu'il vaguait à ses occupations, il croisa des hommes qui revenaient de Juda. Ces hommes devaient être des émissaires qui avaient un message pour le roi. Néhémie en profita pour prendre des nouvelles au sujet de Jérusalem. Voici la réponse que les émissaires firent. Verset 3. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » La santé spirituelle de nos églises vous tient-elle à cœur? Le rapport qu'ils firent n'était pas réjouissant. La cause de Dieu et de son peuple ne prospérait pas. Les Juifs étaient dans le malheur et la honte à cause de leur échec, et Dieu ne pouvait permettre que cet état de choses demeure. Nous non plus. Nous ne pouvons permettre que nos églises demeurent dans des états lamentables. Néhémie fut attristé par ce rapport. Il aurait pu répondre de plusieurs façons. Il aurait pu dire, « Je suis désolé, mes frères, d'entendre cela. Je veux ajouter vos noms à ma liste de prières. Que Dieu vous bénisse. » Néhémie aurait sûrement pu dire d'autres platitudes pieuses ou d'autres clichés chrétiens, mais il ne devait pas les connaître. L'important, c'est que Néhémie fut touché par l'état de Jérusalem et du peuple de Dieu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux. Un messager de Dieu est touché dans son cœur. Notez quelques détails intéressants dans ce verset. Néhémie n'était pas indifférent devant le malheur du peuple, mais il n'a pas fait de critique mesquine. Il aurait pu dire, « Les gens auraient dû faire ceci, ou ils auraient dû faire cela. » Néhémie était profondément touché. Vous rappelez-vous la réaction d'Esdras? Il était un sacrificateur et il se souciait du sort du peuple de Dieu. Maintenant, nous voyons un laïc qui a aussi très à cœur l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nos églises sont menacées de toutes parts. Je me demande si ceux qui critiquent tout et qui se disent touchés par l'état des choses le sont vraiment. Si les choses que vous critiquez ne brisent pas votre cœur, alors taisez-vous. Nous entendons trop de paroles et nous ne voyons pas assez de larmes, de gestes concrets. Si vous n'êtes pas touché dans votre cœur, si vous ne ressentez aucune forme d'angoisse, alors vous n'êtes pas un messager de Dieu. Chers amis, ne jugeons pas avant d'avoir tous les faits. Esdras devait être un homme plus âgé que Néhémie, qui devait être assez jeune. Esdras devait être un petit garçon au moment de la captivité, alors que Néhémie a dû naître en captivité, comme ce fut le cas de nombreux Juifs. C'est pour cette raison que je n'ai pas critiqué ceux qui sont restés à Babylone lors de l'étude du livre d'Esdras. Parmi ceux qui choisirent d'aller hors de la volonté de Dieu, il y avait de nombreuses personnes pieuses qui ont préféré ne pas retourner à Jérusalem. L'apôtre Paul a dit, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » Romains, chapitre 14, verset 4. Nous n'avons pas le droit de juger ces gens. Nous devrions être prudents avant de juger un frère dans la foi, car il est fort probable que nous ne connaissons pas toutes les circonstances et tous les faits. Crions-nous à Dieu pour son Église? Je m'assis, je pleurais. Néhémie devait s'occuper de fonctions d'État, mais cela ne l'empêchait pas de pleurer sur le sort de Jérusalem. Notez qu'il fut désolé pendant plusieurs jours, qu'il jeûna et qu'il pria. Voilà la ressource à laquelle ont recours les hommes de Dieu. C'est ce que fit Esdras, et maintenant, c'est au tour de Néhémie d'en faire autant. Je désire attirer votre attention, une fois de plus, sur l'expression « le Dieu des cieux ». Nous retrouvons cette expression dans le livre d'Esdras, ainsi que dans celui de Néhémie de Daniel. Après la chute de Jérusalem et de sa destruction, Dieu ne pouvait plus être identifié au temple, et comme étant celui qui manifestait sa présence entre les chérubins. La gloire de l'Éternel avait quitté le temple, et elle s'était élevée vers le ciel. C'est pourquoi les livres rédigés après la captivité parlent du Dieu des cieux. Dieu ne s'est pas manifesté avant la naissance de Jésus à Bethléem, alors que les anges ont dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts !» Luc chapitre 2, verset 14. Le Seigneur Jésus était venu sur terre, ayant pris une forme humaine. Il reviendra de nouveau un jour. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Tous les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu chapitre 24, verset 30. Je ne sais pas ce que sera ce signe, mais il est possible que ce soit la gloire de l'Éternel qui reviendra. Cependant, au temps de Néhémie, il était le Dieu des cieux, et c'est ainsi que Néhémie réfère à lui. Néhémie prononce une grande prière. Il en fera une autre au chapitre 9. Poursuivons notre lecture. Néhémie, chapitre 1er, verset 5. Et je dis, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Un pasteur devrait-il porter le titre de révérend? Penchons-nous sur le mot « redoutable » pendant quelques instants. C'est un mot qui n'est pas bien compris et dont on abuse souvent. En fait, un pasteur ne devrait jamais porter le titre de révérend, car il signifie « redoutable ». Peut-être est-ce que je me trompe. Certains d'entre nous pourrions peut-être être appelés le redoutable. Le redoutable un tel, pasteur de telle église. Sérieusement, le mot révérend devrait servir pour désigner Dieu seulement et personne d'autre. Lui seul est le Dieu redoutable. Révérend était un titre donné autrefois aux ministres et aux pasteurs alors qu'ils étaient très considérés dans la communauté. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Même pas à l'intérieur des églises. Certaines églises affirment que ce n'est pas le cas chez elles, mais la plupart des églises ont un groupe de personnes qui ne demandent qu'à crucifier le pasteur. Cependant, autrefois, c'est par respect que l'on donnait le titre de révérend à un pasteur ou à un ministre, même si le terme utilisé ne convient pas. Dieu est le révérend. Dieu est celui que l'on doit redouter. Mais il est aussi le Dieu qui garde son alliance et qui fait miséricorde à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Il est un Dieu qui exerce des jugements, mais il est aussi un Dieu gracieux qui fait miséricorde. verset 6. « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. » Notez que Néhémie s'inclut, ainsi que la maison de son père, dans la confession qu'il fait. Il ne vient pas à Dieu pour confesser les péchés que les autres ont faits. Néhémie n'a pas fait sa prière montée sur un piédestal. Néhémie dit qu'il est pécheur, que la maison de son père a péché et que la nation a péché. Avez-vous déjà entendu ce type de confession dans une église? Avons-nous un véritable souci en ce qui concerne la santé spirituelle des chrétiens et de nos églises? Sommes-nous touchés ou indifférents par l'état de notre Église et de ce qui s'y produit? Notez que Dieu a commencé par convaincre de pécher les personnes qu'il a appelées et utilisées pour l'avancement de son œuvre. Esdras et Néhémie ont confessé leurs péchés ainsi que ceux de la nation. Dieu ne les a pas choisis parce qu'ils étaient supérieurs aux autres ou parce qu'ils étaient des géants spirituels. Ils furent choisis par grâce. Avons-nous le cœur brisé lorsque quelque chose ne va pas dans l'Église du Seigneur? Faisons-nous notre possible afin qu'il y ait de la paix dans l'Église du Seigneur? J'ai déjà connu des personnes membres de la même assemblée qui ne se sont pas parlé pendant des années. Une personne a critiqué l'autre qui ne lui avait jamais pardonné. Par contre, d'autres chrétiens, lorsqu'ils perçoivent que quelqu'un est en colère contre eux, à tort ou avec raison, s'assurent de rencontrer cette personne afin de régler la situation et de demander pardon lorsqu'ils ont eu tort. Les blessures que nous faisons aux autres ne sont pas toujours intentionnelles, mais il faut demander pardon si nous l'avons fait. De plus, si quelqu'un nous blesse, intentionnellement ou non, nous ne devons pas nous laisser aller à l'amertume. Allons à Dieu dans la prière. Ayons une conversation avec la personne concernée et pardonnons-lui. Voyez-vous, si nous avons à cœur la santé spirituelle de notre Église, nous ne laisserons pas l'amertume y prendre racine. Nous allons nous assurer d'être en paix avec tous dans l'Église. Si nous remarquons un état malsain ou une pratique inadmissible dans notre assemblée, allons-nous partir en guerre contre le présumé fautif? Où allons-nous, premièrement, aller à Dieu dans la prière et confesser nos propres péchés, comme le firent Néhémie et Esdras? Ensuite, allons-nous faire de la critique mesquine ou chercher à reconstruire avec la grâce de Dieu? Allons-nous défendre notre position dans l'Église ou allons-nous rechercher le bien et la croissance spirituelle de tous? Le Seigneur a été patient avec nous, et il l'est toujours. C'est par grâce et la puissance de son esprit que nous avons grandi spirituellement. Il ne nous a pas laissé tomber, et il ne laissera pas tomber ses autres enfants. Alors, persévérons à nous aider à grandir mutuellement. Ne condamnons jamais un autre frère. Le Seigneur est capable de le relever, et il le fera. Il y a de l'espoir pour tous, car cela dépend de Dieu et de nous tous. Écoutez l'exhortation faite par l'apôtre Jean, dans sa première lettre, 1 Jean chapitre 4, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si nous voulons que les gens voient Dieu dans notre assemblée, nous devons refléter cet amour divin. Chers amis, prochaine émission, Néhémie, chapitre 1, verset 7 à chapitre 2, verset 16.
Merci, Régent. J'ai bien aimé l'exemple que tu as donné de Néhémie qui s'est inclus, ainsi que la maison de son père, dans la confession qu'il a faite. Tu as mentionné qu'il n'était pas allé à Dieu pour confesser les péchés que les autres avaient faits, mais qu'il s'incluait parmi ceux qui avaient péché. Il n'a pas fait sa prière montée sur un piédestal. suis bien heureuse que les anciens à mon église soient des hommes qui ne disent pas, quand ils prient avec nous, « Père, pardonne à certains membres de l'église ou pardonne à tous les membres de l'église. » Non, ils font comme Néhémie. Ils disent « Père, pardonne-nous tel ou tel péché. » Ils ne se pensent pas supérieurs ou moins pécheurs que les membres envers lesquels ils exercent un ministère. Ils sont des modèles pour nous. Et j'apprends moi aussi à prier de cette manière. Ça nous fait réaliser davantage qu'il est nécessaire de voir la poutre dans notre œil avant de voir la paille qui est dans l'œil de notre frère, de notre sœur. On peut voir aussi à travers les enseignements qu'on reçoit ces temps-ci à quel point il est important de prier. On vit dans des temps où le monde est très attirant, où la loi du moindre effort semble régner. Il serait facile pour nous, les croyants, de s'endormir. Je crois que la prière ne fait pas encore assez partie de notre vie quotidienne. C'est pas pour rien que Paul nous a dit, dans sa première épître aux Thessaloniciens, au 5e chapitre, verset 17, « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et il ajoute dans son épître aux Éphésiens, au 6e chapitre, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Puis au verset 19 et 20, il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Mes amis, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais vous demander de prier pour Réjean et moi. On a souvent l'occasion d'annoncer l'Évangile au cours de nos émissions et aussi dans des endroits publics, soit dans les salles de spectacle ou dans des restaurants, lors des déjeuners de l'espoir et dans des églises. On ne veut pas accomplir notre ministère par nos propres forces. C'est certain qu'on échouerait et que le mystère de l'Évangile ne se ferait pas connaître. Mais on a besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu qui lui seul peut convaincre, à travers nous, les pécheurs qui ont besoin de croire en Jésus seul pour être sauvés, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Alors on compte sur vos prières. Et toi, mon ami, as-tu reçu le cadeau, ce cadeau merveilleux de la vie éternelle? Sinon, tu pourrais le recevoir maintenant. Où es-tu en ce moment? Chez toi? Au travail? Dans ton auto? À l'hôpital? En prison? Dans un centre quelconque? Es-tu seul? Te sens-tu abandonné ou découragé pour quelque raison? Dieu te voit, il te connaît. Il sait exactement ce que tu vis. Et mon ami, écoute nos prochaines émissions et on va te dire ce que Dieu veut faire pour toi.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi. On va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.